France Culture.
Vous écoutez les nuits de France Culture, la seconde nuit consacrée à Victor Hugo se poursuit en compagnie de Judith Pérignon. Bonsoir Judith Pérignon.
Bonsoir Alban.
Vous êtes journaliste et écrivain, vous avez produit plusieurs émissions sur cette chaîne. En 2015, vous avez signé « Victor Hugo vient de mourir », le récit romancé des 8 jours qui séparèrent la mort de Victor Hugo de son entrée au Panthéon. Avant d'écrire ce livre, qui était pour vous Victor Hugo? Que représentait-il?
Il était quelqu'un que j'ai croisé tôt dans ma vie, puisque je pense que ça remonte à l'enfance. Hein. Moi, le premier métier que j'ai déclaré vouloir faire, c'était poète. Et je pense que c'était parce que je lisais beaucoup Victor Hugo. Et il m'a toujours accompagnée, en fait. Il m'a toujours accompagnée, nourrie, parce qu'en plus, il a produit des choses qui vont très bien à l'enfance, qui vont très bien à l'adolescence et qui vont très bien à l'âge adulte. Donc, on n'a jamais fini de le lire. Et donc, quand je me suis mise à ce livre, c'était à la fois quelqu'un de familier et une immense montagne, parce que ça restait toujours Victor Hugo. Donc, et je pense que ce livre, finalement, c'est pour raconter le chagrin des gens, c'était raconter le lien des gens à Victor Hugo, donc le mien finalement.
Qu'est-ce que l'écriture de ce livre, les recherches que vous avez dû faire pour l'écrire, ont changé à votre vision de Victor Hugo, à votre perception de son œuvre et de sa personne?
Disons que ça m'a fait rentrer dans le détail. Je l'aimais de manière parfois... je suis pas une savante ou une spécialiste de Victor Hugo et j'ai toujours voulu rester à cette distance-là. Mais quand il a fallu travailler sur ce livre-là, il fallait vraiment aller vers les archives et le travail sérieux. J'ai approfondi en fait mon lien à Victor Hugo. Il a fallu que je rentre dans les détails. Même si moi je raconte 8 jours, j'ai quand même rebalayé un peu sa vie, reconnecté avec les différentes... ce 19e siècle... tellement compliqué avec ses hauts, ses bas, ses régimes différents et ses phases de Victor Hugo qui a aussi des phases très différentes. Et donc je suis plus connaisseuse de lui qu'avant, mais ça n'a fait qu'asseoir et confirmer mon lien à Hugo.
Qu'avez-vous découvert ou compris de lui qui ne vous était pas apparu auparavant?
J'ai creusé, je pense, à sa complexité, son lien au peuple, son lien à l'idée de révolution, puisque Victor Hugo, justement, quand moi je m'intéresse à ses funérailles, en vue de préparer ses funérailles, il y a beaucoup de réunions dans Paris. On est dans une période fin du 19e, pleine industrialisation, beaucoup d'essor de la presse libre, les syndicats sont libres, essor de beaucoup de mouvements anarchistes, communistes, syndicalistes. Et tous ces gens se penchent sur Hugo en se demandant s'il était vraiment avec eux ou dans quelle mesure il était avec eux, alors qu'il a toujours écrit sur le peuple. Et donc, il a fallu que je me replonge par les textes d'Hugo et par les débats qu'il y a eu autour de lui sur son rapport au peuple, à l'idée de révolte. Tantôt, il apparaît comme une espèce de bourgeois installé et social. Tantôt, il va loin et il fournit les mots la révolte jusqu'à aujourd'hui. Il y a des slogans d'aujourd'hui qui sont de lui, dont on l'a oublié. Et le rapport d'Hugo à la radicalité est quelque chose qui m'a vraiment passionnée.
Victor Hugo a été parfois, à différentes époques, ringardisé, l'emphase, la démesure, le Victor Hugo hélas de Gide, son manichéisme supposé, le grand écrivain national, etc. Avez-vous vous-même, à un moment ou un autre, été contaminé, si on peut dire, par l'air du temps, par cette vision d'Hugo, un écrivain indigeste, un poète ringard ou quelque chose de ce genre?
Non, jamais. Jamais, parce que j'ai même découvert tardivement, moi. Des fois, les choses que j'aime, c'est des bulles, donc j'ai découvert tardivement tous ces procès qui avaient été faits à Hugo. Et effectivement, il y a des choses qui sont plus vieillottes que d'autres, mais il y en a tellement qui vieillissent bien. Et même dans l'emphase, dans la poésie, c'est quelque chose qu'on rencontre dans l'enfance. Son rapport à la nature, son rapport à ses enfants. Moi, je pense qu'une des premières choses, comme tout le monde à l'école, j'ai récité « Demain dès l'aube ». Et ce qui m'a touchée, c'est son rapport à ses filles. Il y avait ce film de Truffaut, Adèle H, dans ces années-là. Et le chagrin d'Hugo m'a touchée. Et donc, j'ai été vers Hugo, voilà, de façon très désordonnée. Et du coup, j'ai jamais vraiment compris ça. Mais dans la période que j'ai travaillé du coup pour ce livre, cette fin de siècle, on voit même Zola justement. Zola qui est pas mécontent. Il était trop imposant, Hugo. Il avait pris de la place, effectivement. Donc, il faut tuer le père dans l'art. C'est connu. Donc, Zola a fait quelques discours un peu de circonstance, mais on sait bien que à demi-voix, il disait bon ben voilà, enfin débarrassé quoi. On a besoin d'un peu d'air. Et voilà, c'est le processus artistique de tuer le père. Et puis après, ben, du coup, c'est Aragon qui a réhabilité Victor Hugo. Et c'est un processus assez normal. Moi, il est arrivé à moi dans les années 70, quand j'étais une petite fille. Et il avait toute sa force.
Et justement, pourquoi vous êtes intéressée à la mort de Victor Hugo, à son début d'existence posthume, en quelque sorte ?
Parce que, justement, je savais que, donc c'est, on disait toujours, les obsèques d'Hugo, ça a été un rassemblement monstre, assez unique. Et on se disait, pourquoi tous ces gens, c'était pas un roi, c'était pas obligatoire, c'était un poète, un homme engagé aussi, mais... Et en visitant, justement, le lien des gens à Victor Hugo, au fond, je pense que je cherchais le mien, parce que tout ça, finalement, on en a hérité au siècle d'après. D'ailleurs, je finis le livre en parlant de moi alors que j'avais pas prévu, puisque la poésie m'a été transmise par mon père.
Et c'est quelque chose. Vous dédiez aussi ce livre à votre père.
Ouais, parce que c'est vraiment lui qui m'a fait lire la poésie enfant. Et donc voilà, elle m'a été transmise par lui. Mon père était un homme très engagé aussi et qui mettait la poésie au-dessus de tout. Et comment ce Victor Hugo a pu nous arriver avec une telle force un siècle après sa mort? C'est parce qu'il y a eu une décharge émotive très forte à sa mort et un héritage. Voilà, et quand, depuis que j'ai fait ce livre, des gens me disent mais moi, je l'ai récité au bout du monde. Quand j'ai fait ce livre, j'écrivais aussi avec Marceline Loridan, qui était rescapée des camps. Et quand elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais en plus de ce qu'on fait? Je dis, ben, j'écris sur Hugo. Et elle m'a dit, mais moi, c'est le seul poème que je récitais à Birkenau. C'était Jeans, un des poèmes les plus longs. Et je lui disais, Marceline, t'avais oublié jusqu'au nom de tes frères et sœurs à Birkenau et tu te souvenais de Victor Hugo? Elle dit, ben ouais. Donc c'est ça, Victor Hugo, et ça
oui,
suffit.
Vous dites que vous vouliez comprendre ce qu'Hugo a déposé en chacun de nous.
C'est vraiment ça. Oui, c'est toujours mieux dit quand je l'écris que quand je le dis à l'oral, mais c'est ça, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est déposé et qu'on ne peut pas toujours cérébraliser, décortiquer.
Et vous dites très justement qu'on l'ait lu ou qu'on ne l'ait pas lu, finalement.
Oui, parce qu'il y a une présence, il y a des références à lui tout le temps. Alors je pense que ça le dessert d'une certaine mesure, parce qu'effectivement, c'est un totem. Et les totems, c'est encombrant. Alors que quand on rentre intimement, tout seul, ou par le bout qu'on veut, dans un livre ou un poème d'Hugo, eh bien qu'on trouve une connexion intime. C'est bien plus fort que tous les bustes et les grands discours sur Hugo. Parce que ce qui m'agace, par exemple, c'est qu'Hugo, justement, l'écrivain national, la parole officielle et politique l'a beaucoup récupéré. Aujourd'hui, il y a des dictateurs qui citent Victor Hugo aux tribunes officielles. Et ça, c'est bien dommage. Parce que c'est quand même l'écrivain de la liberté, de l'humanité, de l'espoir. Et donc, il a été dévoyé dans ce sens-là. Donc c'est pour ça qu'il faut retrouver une intimité à Hugo et se défaire un peu de l'écrivain national.
Pourquoi un roman pour évoquer un moment, ce moment de notre histoire, Judith Pérignon ?
Parce que le roman, c'est la 3D, ça permet de rentrer dans la chambre, puis d'être à l'Assemblée nationale, ça permet d'être dans la tête de quelqu'un, et puis dans le lit du mort. L'historien, lui, il est obligé de prendre un peu de hauteur, alors que moi, je me suis attachée aux détails, justement, pour parler de cette intimité qu'on peut avoir avec Hugo. Moi, en étant dans les archives de la maison Victor Hugo, des musées, mais surtout de la préfecture de police, je cherchais les petits détails, les petites phrases, les objets. Je cherchais pas l'événement national. Je cherchais pourquoi j'ai comme ça sélectionné des gens qui ont réellement existé. Un indique, un brigadier,
un député,
des anciens anarchistes. Et pourquoi ils se sont tous retrouvés là? Quel rôle ils ont joué? Mais j'ai voulu être tantôt dans la rue, tantôt dans leur tête. Et il n'y a que le roman qui permet de passer partout, au fond.
Avez-vous dû prendre des libertés avec les faits, avec l'histoire, pour écrire ce livre?
Disons que je fais de la mise en scène. Donc j'ai d'abord énormément travaillé la documentation. Les rapports de police étaient d'ailleurs d'une précision telle que on peut remercier l'espionnage,
tous les indices
qui étaient là, mis en place par la République comme au temps de l'Empire, m'ont bien aidé un siècle après. Donc j'ai vraiment essayé de reconstituer les parcours des gens, des rues. Même quand j'ai fait des dialogues entre, je me souviens d'un débat comme ça que j'ai installé dans un café en face de la maison de Victor Hugo. Puisque tous les journalistes s'engueulaient, puisqu'il y avait la presse de droite, il y avait la presse de gauche, on se demandait s'il allait passer par l'église ou ne pas passer par l'église, ce qui était un choc. Hein. L'événement de ses funérailles, c'est qu'il ne va pas laisser son enterrement aux mains de l'église. Il croit en Dieu, mais il éloigne les prêtres. Et j'ai voulu restituer cette ambiance qu'il y avait dans les cafés juste en bas de chez lui. Donc j'ai lu comme ça les éditos que les uns et les autres avaient écrits à l'époque, mais je les ai transformés en dialogue entre eux. Donc ça, c'est une liberté. Je détourne un peu l'histoire, mais au fond, je restitue comment s'articulait le débat.
La mort de Victor Hugo, ses obsèques, ce deuil, on l'imagine naturellement comme un temps d'unité nationale, d'unité parisienne, de recueillement. Mais ce que vous décrivez n'est pas aussi lisse, pas aussi simple, Judith Pérignon. Qu'est-ce qui se joue alors, dans la rue et au pouvoir, autour de la dépouille de Victor Hugo? Quelles sont alors les dissensions, les divisions politiques, idéologiques qui travaillent ce moment?
Toutes les dissensions de cette fin du 19e apparaissent. On a une république qui est jeune, encore, qui se demande si elle va durer, puisque la première et la deuxième ont été de courte durée. Elle a donc 15 ans. Les communards sont rentrés depuis 5 ans du bagne. Donc ils sont quand même bien remontés contre cette république. Louise Michel est en prison. Les quartiers ouvriers de l'Est parisien sont en ébullition. Il y a des grandes grèves.
Mais puisqu'on a très peur que les drapeaux tricolores ne se transforment en drapeau rouge.
Voilà, donc tout ce climat fait que le gouvernement est très attentif à ses obsèques. Il veut en faire un événement populaire et national, mais il ne veut pas que ce soit un champ d'exposition et que ça fasse émerger toute cette colère sociale, ces nouveaux mouvements. Donc ça, déjà, c'est pour ça qu'il y a des indices partout, que toutes les réunions sont sous surveillance. Et puis, il y a la question religieuse, qui est la vraie question qui divise... Et qui prépare finalement, on est dans la pleine préparation de la loi 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Donc c'est pour voir que le pouvoir veut absolument faire de cet événement un événement de cohésion qui va installer la République, alors qu'on n'est pas encore sûr que la République dure aussi longtemps. C'est facile à dire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas aussi sûr. Et en même temps, il y a une colère sociale qui demande à s'exprimer, qui fait de l'écrivain des misérables leur écrivain. Dans des réunions comme ça, il y en a qui disent on va broder des vers des misérables ou des vers des contemplations sur nos banderoles. Mais pour y aller, il faut s'inscrire à la préfecture, il faut jurer qu'on n'aura pas le drapeau rouge. Donc c'est un événement très contradictoire. Et ce que j'ai découvert finalement en plongeant dans la doc, c'est que le gouvernement avait peur. C'est qu'il a fallu quadriller le terrain, surveiller l'événement. Et finalement, c'est pas tellement dit, c'est pas tellement connu, ça. Et donc, la date a été fixée un lundi. Comme ça, les ouvriers, ils travaillent, ils peuvent pas être dans la rue. Les écoles étaient fermées, les théâtres, les magasins, tout était fermé. Mais les gens, les travailleurs, pouvaient pas venir. Ils ont écrit de très belles lettres à la famille, justement pour leur demander d'essayer de faire changer la date pour être là. Et ces lettres, elles sont tellement belles, justement. On revient au rapport intime à Victor Hugo. C'était des gens, beaucoup sont analphabètes. Ces gens qui n'avaient pas forcément lu Victor Hugo ou à qui on avait lu les feuilletons des Misérables. Mais on voit bien qu'ils écrivent à plusieurs, il y a encore des fautes dans leurs lettres. Et ils demandent de pouvoir assister à l'enterrement de celui qui a un père pour eux.
Vous écrivez « Le pays va bientôt manger son poète ».
Oui, parce que le pays veut le récupérer. Tout le monde veut récupérer le poète. Hein. Donc le gouvernement, l'église qui veut essayer d'avoir son enterrement, même la droite un peu... Bonapartiste veut récupérer un bout. Voilà, tout le monde veut avoir du Hugo parce qu'on comprend qu'il va être l'homme de ce siècle. On ne peut pas critiquer Hugo. Personne ne dit aucun intérêt. Personne ne conteste les obsèques nationales. Et donc tout le monde veut l'attraper. Mais le risque, c'est de le diluer, justement. De l'édulcorer dans ses obsèques.
Et le Panthéon, est-ce que ce n'est pas une manière de faire taire Hugo, de le tenir à distance?
À l'époque, non, parce que justement, le Panthéon a été repris par l'Église. Donc, il faut réarracher ce bâtiment qui avait été déclaré temple des grands hommes par la Révolution et où on avait mis les restes de Rousseau et Voltaire, avait à la Restauration été rendu à l'Église. Donc c'était le camp de l'Église. Donc les obsèques de Victor Hugo vont devenir le terrain d'affrontement de la République face à l'Église. Donc il faut reprendre l'Église. Donc ce geste-là est très important et va vers le grand débat sur la laïcité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'est le Panthéon ? Ça, on peut discuter. Mais sur le moment, c'était vraiment un acte important et qui a été très célébré. Autant les obsèques nationales ont été votées à l'unanimité par la Chambre, autant il y a eu une division et un clash sur cette question-là.
Nous entendrons tout à l'heure une émission de 1955 dans laquelle témoignaient des gens d'un âge certain qui avaient vu, qui avaient vécu les obsèques de Victor Hugo en 1885, enfants, adolescents ou dans leurs 20 ans. Des témoignages émouvants mais qui révèlent la fragilité des mémoires, l'incertitude des souvenirs. Vous avez écouté cette émission, Judith Pérignon, que retenez-vous ?
Oui, je retiens, bah oui, c'est presque des éclats en fait ces témoignages. Mais la foule... Il faut imaginer, c'est-à-dire que quand le convoi est arrivé au Panthéon, les gens qui étaient porte-maillot n'avaient pas bougé, pour vous dire l'ampleur, enfin la longueur du défilé. Ça, c'est les gens qui défilaient. Et sur les trottoirs, c'était un fracas de chaises, de tables, de carrioles. Il n'y avait pas eu... Et donc, il y a des gens qui n'ont vu qu'un fragment de ça. On ne bougeait plus, la foule. C'était impossible de circuler. Donc, il y a ceux qui voyaient ça depuis leur fenêtre. Il y a ceux qui finalement n'ont pas pu aller, mais qui sont allés la veille, puisqu'on pouvait se recueillir devant la dépouille. Donc on dit que Paris s'est vidé d'un côté, c'est-à-dire que Paris semblait vide là où il n'y avait pas le défilé, que tout le monde était là. En tout cas, la foule est finalement le personnage de ce jour-là, c'est la foule. On n'a jamais vu une telle foule.
De l'œuvre poétique, de ses romans, de son théâtre, mais aussi de ses dessins, où va votre préférence ? Six préférences.
Oh, c'est compliqué. C'est quand même la musique de la langue, donc ces dessins sont magnifiques, mais c'est moins mon outil à moi, donc je reste dans la langue et la musique d'Hugo. Mais de roman à poème, ce serait difficile de trancher. Surtout que les poèmes ont été quand même mon entrée.
Qu'avez-vous choisi de lire de Victor Hugo ? De nous lire ?
J'ai choisi de vous lire la fin de 93. Qui est un roman que je trouve qui m'a vraiment bouleversée, que je trouve très contemporain dans sa questionnement du rêve et de l'utopie politique. Et pour vous planter le décor, donc la fin, c'est un débat entre Simourdin et Gauvin. Donc on est en 93, donc on est dans l'entrée de la terreur. C'est là où la révolution commence à se dévoyer. Simourdin et Gauvin sont deux personnages. L'un, Simourdin, a été un peu le mentor de l'autre. Ils ont tous les deux combattu en Vendée contre les contre-révolutionnaires. Et finalement, ils vont tous les deux être des vrais révolutionnaires, même si Gauvin vient d'une famille vendéenne, il va se retourner contre sa propre famille. Mais finalement, le temps passant et les dissensions arrivant dans toutes ces factions révolutionnaires, ils vont s'opposer. Simourdin va défendre la terreur et le système tel qu'il est à ce moment-là, tandis que Gauvin reproche à la Révolution de se durcir, d'oublier l'homme et d'oublier l'utopie. Et donc Gauvin est condamné à mort. Et le passage que je vous lis, c'est Simourdin, qui est si proche de lui, qui a été son instructeur, lui rend visite au cachot.
On vous écoute.
Gauvin reprit. Et la femme, qu'en faites-vous ? Simourdin répondit. Ce qu'elle est, la servante de l'homme. Oui, à une condition. Laquelle ? C'est que l'homme sera le serviteur de la femme. « Y penses-tu ? » s'écria Simourdin. « L'homme serviteur ? Jamais. L'homme est maître. Je n'admets qu'une royauté, celle du foyer. L'homme chez lui est roi. » « Oui, à une condition. Laquelle ? C'est que la femme y sera reine. » « C'est-à-dire que tu veux pour l'homme et pour la femme l'égalité. »« L'égalité, y songes-tu ? Les deux êtres sont divers. » « J'ai dit l'égalité, je n'ai pas dit l'identité. » Il y eut encore une pause, comme une sorte de trêve entre ces deux esprits échangeant des éclairs. Simourdin la rompit. « Et l'enfant, à qui le donnes-tu ? » « D'abord au père qui l'engendre, puis à la mère qui l'enfante, puis au maître qui l'élève, puis à la cité qui le virilise, puis à la patrie qui est la mère suprême, puis à l'humanité qui est la grande aïeule. Tu ne parles pas de Dieu ? Chacun de ces degrés, père, mère, maître, cité, patrie, humanité, est un des échelons de l'échelle qui monte à Dieu. Simourdin se taisait. Gauvin poursuivit. Quand on est en haut de l'échelle, on est arrivé à Dieu. Dieu s'ouvre, on n'a plus qu'à entrer. Simourdin fit le geste d'un homme qui en rappelle un autre. Gauvin, reviens sur terre. Nous voulons réaliser le possible. Commencez par ne pas le rendre impossible. Le possible se réalise toujours. Pas toujours. Si l'on rudoie l'utopie, on la tue. Rien n'est plus sans défense que l'œuf. Il faut pourtant saisir l'utopie, lui imposer le joug du réel et l'encadrer dans le fait. L'idée abstraite doit se transformer en idée concrète. Ce qu'elle perd en beauté, elle le regagne en utilité. Elle est moindre mais meilleure. Il faut que le droit entre dans la loi, et quand le droit s'est fait loi, il est absolu. C'est là ce que j'appelle le possible. Le possible est plus que cela. Ah, te revoilà dans le rêve. Le possible est un oiseau mystérieux, toujours planant au-dessus de l'homme. Il faut le prendre. Vivant. Gauvin continua. Ma pensée est toujours en avant. Si Dieu avait voulu que l'homme reculât, il lui aurait mis un œil derrière la tête. Regardons toujours du côté de l'aurore, de l'éclosion, de la naissance. Ce qui tombe encourage ce qui monte. Le craquement du vieil arbre est un appel à l'arbre nouveau. Chaque siècle fera son œuvre, aujourd'hui civique, demain humaine. Aujourd'hui la question du droit, demain la question du salaire. Salaire et droit, au fond, c'est le même mot. L'homme ne vit pas pour n'être point payé. Dieu, en donnant la vie, contracte une dette. Le droit, c'est le salaire inné. Le salaire, c'est le droit acquis. Gauvin parlait avec le recueillement d'un prophète. Simourdin écoutait. Les rôles étaient intervertis, et maintenant il semblait que c'était l'élève qui était le maître. Simourdin murmura « Tu vas vite. »« C'est que je suis peut-être un peu pressé, » dit Gauvin en souriant. Et il reprit « Ô mon maître, voici la différence entre nos deux utopies. Vous voulez la caserne obligatoire, moi je veux l'école. Vous rêvez l'homme soldat, je rêve l'homme citoyen. Vous le voulez terrible, je le veux pensif. Vous fondez une république de glaive, je fonde. » Il s'interrompit. « Je fonderai une république d'esprit. »
Pourquoi avoir choisi de nous lire ces pages de 93, le dernier des romans écrits par Victor Hugo, Judith Pérignon?
Parce que d'abord, je trouve que on sent la modernité, c'est-à-dire qu'on voit monter l'utopie, la question des femmes, chez ce grand bourgeois, qui, je sais pas, la question des femmes, la question du mot salaire. Et de quoi on parle aujourd'hui? De ça? C'est-à-dire qu'il dessinait le chemin, quoi. Il dessinait le chemin et pour revenir à l'articulation de l'idée de la révolte ou jusqu'où aller dans la révolution, une question qui taraudait, on a vu le rapport compliqué que Hugo a eu à la commune, il n'aimait pas les bains de sang, donc il avait peur des révolutions. C'est-à-dire qu'il fournissait les mots de la révolution et après il avait peur des révolutions. Et parce qu'il défendait d'abord l'idée de liberté, donc c'est juste magnifique.
Gauvin meurt guillotiné après avoir crié « Vive la République !» Au même moment, Simourdin se tire une balle dans le cœur. Que dit Hugo, selon vous, de notre révolution, peut-être de toutes les révolutions?
Qu'elles lui font peur. Qu'elles lui font peur. Et pourtant, encore une fois, il fournit les mots. Et c'est vrai que par la suite, on a vu la révolution russe, on a vu des révolutions fortes qui ont mal tourné. Et lui, ce qu'il pose, c'est la question de l'homme. Là où la pensée, l'idéologie s'articule, souvent, elle dessine un homme un peu abstrait, un peu un grand homme, mais qui est loin. Hugo, il est dans les contradictions des hommes. Il est dans les contradictions des hommes. Et ce que les révolutions oublient, et là où elles échouent, justement.
Et d'ailleurs, le roman s'achève sur ces mots, et ces deux âmes, sœurs tragiques, s'envolèrent ensemble, l'ombre de l'une mêlée à la lumière de l'autre.
Parce qu'il les réunit, parce que ces deux hommes se sont aimés et se sont opposés sur des questions politiques.
Diriez-vous qu'Hugo est un tragique, qu'il a de l'histoire une vision tragique dans laquelle, au fond, chacun a ses raisons?
C'est un tragique, mais on voit bien dans ce que j'ai lu, c'est-à-dire qu'il dessine toujours l'espoir. Ce qu'il laisse en héritage, c'est un espoir fou. Ce qui lui est reproché aussi, dans le procès qui lui a été fait de son lyrisme, c'est de se dire, mais cet espoir fou, et notre société pourrait dire, mais Hugo, t'as tout faux. Puisqu'on est aujourd'hui, on recule, cette espèce de progrès de siècle en siècle est arrêté depuis un moment. Et au fond, c'est pas qu'il a tout faux, c'est qu'on a besoin de ça pour avancer. Moi, quand je travaillais, il y a une phrase magnifique que j'ai trouvée d'un écrivain catholique qui reprochait à tous ces écrivains qui attaquaient l'Église, il leur disait « si vous répudiez la foi, vous êtes condamné au rêve ». Ce qui est vrai. Et c'est parce que nous, on n'a plus de pensée, de rêve, de grands idéaux, qu'on est au retour religieux aujourd'hui. Et donc voilà, Hugo, il fournissait le rêve, tout en étant réaliste.
Mais vous dites de sa littérature qu'elle est émancipatrice, libératrice.
Ouais, ouais. Tous les résistants du monde entier ont lu Victor Hugo. Vraiment. C'est un écrivain mondial. C'est pas l'écrivain national, c'est un écrivain mondial, c'est l'écrivain de la liberté.
Mais est-ce que, plus encore que dans ses idées progressistes et émancipatrices, est-ce que ce n'est pas dans ses océans, dans ses tempêtes, dans ses lumières et ses ténèbres, dans ce conte cosmique, ses visions, que la lecture de Victor Hugo nous libère, Judith Pérignon ?
Oui, parce qu'il nous intègre toujours dans des paysages, dans des éléments très forts. Et c'est là que sa poésie revient, la force des éléments. La lumière, effectivement, Les travailleurs de la mer est un magnifique roman et il fait beaucoup de métaphores et d'allégories avec les éléments. Et on est à la fois minuscule dans ces paysages, mais comme lui, face à l'océan, au fond. Il était tout petit face à l'océan en exil. Mais il se frotte aux éléments, il nous frotte aux éléments. Et c'est en se frottant ces éléments qu'on se sent vivant, au fond.
Dans « Du génie français », publié en septembre dernier, Régis Debray écrit qu'Hugo s'évade de la chronologie, qu'il résume une civilisation en sorte que notre actualité s'y retrouve sans peine. Qu'a-t-il, selon vous, à nous dire de notre temps ?
Je pense qu'il devrait être à nous dire de notre temps, il nous dirait qu'on a calé, quoi. Qu'on a calé, qu'on a oublié. Qu'on a oublié les messages de l'histoire. Et il est comme un carburant, c'est-à-dire qu'il faut revenir à ce Gauvin qui dit « si on rudoie l'utopie, on la tue ». Et c'est ce que font c'est ce que la parole politique depuis des décennies rudoie l'utopie. Au nom du réalisme, au nom du « c'est pas possible », on a tué l'utopie. Et donc, on arrive à la situation d'aujourd'hui. Donc, il faut revenir aux mots, à ces mots-là.
Donc, vous seriez d'accord avec Régis Debray pour dire qu'il est temps pour nous de redevenir hugoliens ?
Je l'ai toujours été.
Merci Judith Pérignon. Votre roman Victor Hugo vient de mourir est disponible aux éditions de l'Iconoclaste. La seconde nuit Victor Hugo se poursuit sur France Culture avec les poèmes La fin de Satan et Dieu, cinquième et dernière partie de Victor Hugo, Le combat des ténèbres, une série de Philippe Nemo dans l'autre scène où les vivants et les dieux en 1979. Le théâtre de Victor Hugo avec Christophe Honoré et Marion L'Écrivain au micro de Joël Gaillot dans Les Mercredis du théâtre en 2010. Et enfin, Soyez témoins, l'enterrement de Victor Hugo de André Gillois en 1955 sur la chaîne parisienne. Et tout de suite, nous écoutons La guerre, une adaptation d'un poème de Victor Hugo, extrait des chansons des rues et des bois, chanté par Jean-Pierre Calfon en 1965, une rareté qui vient d'ailleurs d'être rééditée.
Depuis 6000 ans, la guerre plaît au peuple, querelleur et dieu, perd son temps à faire les étoiles et les fleurs. Les carnages, les victoires, voilà notre grand amour, et les multitudes noires ont pour grelot le tambour. L'acier, lui, les bivouacs fument pâle, nous nous déchaînons, les sombres âmes s'allument aux lumières des canons. Et cela, pour des altesses qui vous à peine enterrez, se feront des politesses pendant que vous pourrirez. Et que dans le champ funeste, les chacals et les oiseaux hideux iront voir s'il reste de la chair après vos os. Aucun peuple ne tolère qu'un autre vive à côté. Et l'on souffle la colère dans notre imbécile.